Alors, je développerai ce sujet en quatre points. Premier point, centralité de l'eschatologie dans le Nouveau Testament. Alors, le mot eschatologie, c'est l'un des seuls mots barbares que j'emploierai. Hein, tout ce qui est relatif aux réalités dernières. Dernière, pas simplement au sens où c'est la fin de l'histoire. Dernière au sens où c'est ultime, au sens du sens, de la signification. Dans quel sens ça va, hein? Et donc cette affaire-là n'est pas nécessairement liée à une fin chronologique, et c'est un des fils conducteurs de cet exposé, mais est déjà une réalité qui peut nous atteindre au présent parce qu'elle n'est pas précisément de l'ordre du chronologique exclusivement. Donc au sens de l'ultime. Centralité de l'eschatologie dans le Nouveau Testament. Dans un deuxième temps, je parlerai de la figure temporelle de l'éternité en régime biblique et chrétien. Figure temporelle de l'éternité, il ne faut pas que ça vous affole, hein. Bref. En régime biblique et chrétien. Oh, mais c'est pas compliqué, vous verrez. Bref. C'est-à-dire que l'éternité, qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas en parler comme ça, on est obligé d'en parler. On est obligé d'en parler à partir de nos données spatio-temporelles. Parce que, si vous avez remarqué, on n'y est pas encore. Le troisième point sera la dimension eschatologique du monde. Et le quatrième point, la réalité eschatologique de l'Église. D'accord? Vous avez vu où on va? Je rappelle, centralité de l'eschatologie dans le Nouveau Testament. Deuxième point, figure temporelle de l'éternité en régime biblique et chrétien. Troisième point, dimension eschatologique du monde. Et quatrième point, réalité eschatologique de l'Église. On y va. Il importe de rappeler le caractère central de l'eschatologie dans le Nouveau Testament. On a trop tendance à l'oublier. Non seulement il est central, mais il est omniprésent. Et j'allais dire, il est même quasi exclusif. Pourquoi? Parce qu'en Jésus et en Jésus ressuscité, les temps sont accomplis, la plénitude est là. Donc les réalités ultimes sont déjà données à notre vie présente. Ceci est exprimé de multiples manières, par exemple dans les évangiles, où pour nommer Jésus, eh bien on ne sait pas trop comment le nommer parce que précisément il est l'unique. Et pour dire l'unique, il faut essayer de le comparer à autre chose. Mais en même temps, en disant que cette comparaison n'est pas raison, c'est-à-dire que cette comparaison nous dit autant quelque chose de la différence que de la ressemblance avec celui qu'on nomme. Et comment on va faire? On va dire il y a quelque chose de plus en Jésus que. Quand vous entendez dans les évangiles, il y a quelque chose de plus que Jonas, ici il y a plus que Moïse, ici il y a plus que le temple. C'est des phrases très fortes. Il y a plus que le temple est le lieu cosmique de rencontre du ciel et de la terre. Hein? Dans la cosmovision biblique. Il y a plus que le sabbat, etc., etc. Autrement dit, en Jésus, il y a la figure unique, décisive, définitive de la rencontre de Dieu et de l'homme. Et donc, les temps sont accomplis. Et ce terme d'accomplissement, en particulier chez Matthieu, est récurrent. L'Écriture s'accomplit, la loi s'accomplit. Matthieu va ponctuer son évangile par une suite d'accomplissements réalisés par Jésus au cours de sa vie, pour que s'accomplit l'Écriture, etc. La prédication de Jésus est polarisé complètement par une catégorie eschatologique qui est le règne de Dieu. C'est central. Le règne de Dieu est là. C'est le règne de Dieu que prêche Jésus, mais c'est le règne de Dieu qu'est Jésus, puisqu'il est ce qu'il prêche. C'est fondamental. Vous trouvez ce terme « royaume de Dieu » ou « règne de Dieu » 122 fois dans le Nouveau Testament. 99 fois dans les synoptiques, 90 fois dans la bouche de Jésus. Le règne de Dieu est présent en Jésus. Quelqu'un hier demandait la traduction de « Le règne de Dieu est au milieu de vous ». On peut traduire la préposition, c'est une préposition. Hein. Le règne de Dieu est en vous, au-dedans, au milieu, suivant les interprétations, toutes sont valables. Hein. Mais dans le sens, effectivement, d'une présence agissante à la fois au milieu et dedans. Le règne de Dieu est présent dans les actes de Jésus. Les miracles de Dieu, les miracles de Jésus, qu'est-ce que c'est ? Sinon, déjà, l'émergence de la nouvelle création. Dieu fait advenir le monde nouveau à travers ces signes qu'on appelle miracles. Déjà, le monde nouveau s'engendre. Déjà, il est à l'œuvre. Il fait du neuf. Hein ? C'est le sens profond des signes qu'on appelle miracles. Ce sont précisément des signes. D'ailleurs, vous savez très bien que dans les évangiles, quand Jésus fait un miracle, pour qu'il soit bien compris, il faut qu'il fasse signe. Il ne faut pas qu'il soit obstacle, au sens où on s'arrêterait à quelque chose d'étonnant. Il faut qu'il fasse signe vers Jésus, qui est le règne de Dieu au milieu de nous. Et donc, ce règne de Dieu qui est au milieu de nous, non seulement à travers les miracles, mais à travers tous les actes de Jésus, s'inscrit dans notre histoire, s'inscrit dans la chair et le sang de notre humanité. Jésus s'adresse, comme nous avons l'habitude de dire, à tous les hommes, mais au tout de l'homme, à sa santé, à son espérance, à sa vie quotidienne, etc. Et en particulier, j'ai un petit point à relever, les miracles que Jésus opère le jour du sabbat. Hein, puisque le jour du sabbat, c'est le jour conclusif de la création, et avec Jésus, nous faisons exploser d'une certaine manière l'espace de la première création. Si Jésus guérit le jour du sabbat, c'est que c'est le jour nouveau de la nouvelle création qui est en train de naître. Et cela est fondamental dans les récits de la résurrection, puisque vous savez que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine juive, autrement dit pour nous un dimanche, premier jour le jour du Seigneur, de la semaine, qui va être compris comme étant, à partir de l'épisode de Thomas, vous savez, qui revient 8 jours après, le 8e jour. Or, il n'y a que 7 jours. Le 8e jour, c'est le premier jour d'après le 7e. Autrement dit, c'est le jour premier de toujours, en quelque sorte. Le jour de la nouvelle création. Autre aspect que je veux souligner, rapidement bien sûr, Jésus pardonne les péchés. Ça, c'est un signe fondateur de la venue des réalités ultimes. Il ne transmet pas le pardon de Dieu, comme font par exemple les prophètes. Et d'ailleurs, on voit bien que ça provoque le scandale de son entourage. Il pardonne les péchés, ce que Dieu seul peut faire. Et s'il pardonne, c'est parce que désormais, c'est possible. Parce qu'avec Jésus, nous sommes pardonnés. Et on va voir les conséquences de cette affaire, en fait, de vie chrétienne. Un aspect eschatologique central, c'est l'appel des 12. Hein, le chiffre 12 représente la communauté eschatologique du salut, qui est une sorte de plénitude de l'alliance, hein, c'est-à-dire l'humanité pleinement réconciliée, c'est symbolique. Et les 12 sont à l'origine et à la fin, puisqu'ils vont juger les 12 tribus d'Israël. Se joignent dans l'appel des 12 le commencement et l'accomplissement. Ils sont à l'origine et au terme. Un autre aspect récurrent dans les évangiles, c'est les repas. Les repas de Jésus, et en particulier avec les pécheurs, qui sont signe du banquet messianique. Si Jésus est là et qui partage le repas, vous trouvez ça explicitement d'ailleurs dans les paraboles du royaume, sur le festin messianique, c'est donc que nous sommes effectivement convoqués par Jésus et avec lui et en lui au royaume de Dieu. Donc Jésus fait advenir en sa personne un règne, mais de manière absolument inédite, puisque nous restons dans notre temporalité et dans notre espace, mais un règne qualitativement nouveau. Il y a donc deux aspects d'une seule réalité que nous appelons, que nous avons coutume d'appeler déjà là et pas encore, qu'il faudrait préciser. Et cette réalité, déjà là, pas encore, est diffuse dans tout le Nouveau Testament, même si elle n'est pas exprimée comme ça. Un exemple significatif, l'appel de Jésus, ou plutôt la première proclamation de Jésus. Les temps sont accomplis, le royaume de Dieu vient à vous, convertissez-vous et croyez à l'heureuse annonce. Alors j'ai sous les yeux le texte original. Les temps sont accomplis, il vient à vous le royaume de Dieu. Le verbe est au parfait. En grec, le parfait, c'est le temps de quelque chose qui est pleinement réalisé et qui ne meurt pas quelque part. C'est un temps qui est, ça y est, c'est là et c'est du définitif. Accompli. C'est accompli, c'est-à-dire, sur le terme original, c'est quelque chose même qui déborde. Plérome. Et le temps sont accomplis, c'est pas le temps chronologique. C'est le temps d'un événement qui transfigure le temps, ce qu'on appelle le kairos. Vous avez en grec deux mots pour dire le temps. Vous avez chronos, d'où vient le terme chronologie, hein, qui est la durée, si vous voulez, passé, présent, futur. Et vous avez le kairos qui dit la dimension qualitative. Qu'est-ce qui se passe? Le rapport au temps par rapport à l'événement. Vous savez très bien que le temps, notre rapport au temps est très différent suivant les événements que nous vivons. Et là, il y a comme un événement qui remplit en quelque sorte pleinement la réalité humaine, qui elle se situe dans un continuum passé, présent, futur, puisque le présent c'est toujours le présent du passé et le présent du futur. Alors, le présent en soi n'existe pas. Mais je ne veux pas rentrer trop dans ces considérations spéculatives. Le temps est accompli et le royaume vient à vous. Et là, vous avez du déjà là et du pas encore, vous voyez? C'est accompli, c'est fait, mais ça vient à vous. Convertissez-vous. Convertissez-vous, c'est métanoïaïté, métanoïa. Retournez-vous au fond de vous. Hein, le nous, le cœur, le centre de la personne. Retournez-vous au fond de vous. Attention, il vient à vous et il est là. Autrement dit, le déjà là, pas encore, nous dit que effectivement le royaume de Dieu est là, mais il n'est pas là de manière à s'imposer à nous, malgré nous, il est là si on se tourne vers lui. Et nous verrons un peu plus loin que la seule urgence eschatologique, c'est l'urgence de la conversion dans les évangiles. C'est-à-dire, c'est ça, convertissez-vous, tournez-vous vers ce qui est là, mais c'est là en tant que ça vient à vous, en tant que ça se propose à vous comme vie nouvelle. Les temps sont accomplis. Donc le kairos, le temps est accompli, le royaume de Dieu vient là. Le verbe c'est amener vers, hein, faire se joindre. Le royaume, il veut se joindre à vous, il veut vous rejoindre, c'est ça le sens précis du verbe. Il veut vous rejoindre, mais il ne vous rejoindra pas sans vous. Donc tournez-vous au fond de vous vers lui. Et croyez à l'heureuse annonce, ce que j'ai traduit par heureuse annonce, qu'on traduit par évangile, euangelion. Hein. Croyez à l'heureuse annonce. C'est une heureuse annonce. C'est le terme, la traduction, me semble-t-il, la plus précise du mot évangile. Hein. Euangelion. Annonce heureuse. Bon, j'ai parlé des évangiles. Évidemment, tout ça est très rapide. Quelques mots sur Paul. Alors avec Paul, la dimension eschatologique aussi est omniprésente. Avec le Christ arrive la plénitude des temps. Hein. De multiples manières, Paul exprime cette plénitude. Il contrapose à plusieurs reprises le « autrefois, maintenant ».« Autrefois, vous étiez, maintenant ».« Autrefois, maintenant ». Pour dire que désormais, il y a du neuf absolument qui se produit. Du nouveau, vie nouvelle. Création nouvelle, homme nouveau, alliance nouvelle. Et le terme qui est ici choisi, c'est, excusez-moi ces précisions, mais il faut quand même les indiquer, c'est kainos. Il y a aussi deux termes pour dire nouveau en grec. Vous avez néos, d'où viennent nos néos, vous savez, néo, machin, etc., et kainos. Le néos, c'est le nouveau qui vient après quelque chose, mais qui s'inscrit, si vous voulez, autrement dit, c'est l'effet de monde, si je puis dire, oui, qui finira par vieillir. C'est un nouveau qui s'inscrit dans une temporalité qui, par définition, vieillira. Le kainos, on ne parle pas de ça, c'est la qualité du nouveau en tant que tel. La qualité du nouveau. Donc, c'est ce mot qui est employé pour dire création nouvelle, alliance nouvelle. Ce matin à la messe, je disais le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Enfin, l'Eucharistie est le lieu central de l'eschatologie. C'est stupéfiant quand vous parlez du corps et du sang qui sont par excellence les réalités de chair, autrement dit des réalités qui passent, des réalités qui meurent. Ces réalités-là sont désormais transfigurées par l'alliance nouvelle et éternelle. Je vais revenir plus loin sur l'alliance. L'alliance nouvelle et éternelle. Nouvelle et éternelle, ça va ensemble au sens d'une nouveauté qui demeure en tant que nouveauté. Pour résumer cet aspect-là chez saint Paul, vous pourrez lire tout simplement la phrase qui se trouve, me semble-t-il, en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, sur la création nouvelle. J'ai ici le texte original sous les yeux. Parce que vous êtes une création nouvelle, le vieux s'en est allé, voici le nouveau devient, ou advient, tout est neuf, c'est une traduction littérale, je ne sais pas comment, dans les différentes bibles en français, le vieux a passé, tout est neuf, mais il y a l'idée du neuf qui advient. Vous trouvez chez saint Paul, comme dans les communautés primitives, cette idée du venir à nous de toute chose nouvelle, le fameux Maranatha dont on a parlé hier, dans les églises palestiniennes, de langue araméenne, qui nous viennent tout droit de la liturgie. Maranatha, viens Seigneur Jésus, nous sommes tournés vers toi et fais toute chose nouvelle. Et il le fait en partant de l'Eucharistie. Je ne parlerai pas trop de Jean parce qu'on a parlé de l'Apocalypse et de Jean un petit peu dans les conférences précédentes, mais Jean a tendance à faire se joindre le maintenant et le pas encore, et à montrer à quel point le maintenant de la condition nouvelle traverse de part en part la réalité de chair et de sang, la réalité présente, au point qu'il fait se conjoindre pratiquement la croix et la résurrection. Alors, particularité de cette nouveauté. Avec Jésus, qu'est-ce qui se passe? Je parlais du déjà-là et du pas encore. Il faudrait presque dire que, et ça c'est pas évident dans la perspective intramondaine, parce que c'est déjà-là, c'est pas encore. Je m'explique. Avec Jésus, désormais vous avez une présence comblante qui, si elle vous rejoint, creusera une absence. Avec Jésus, désormais, vous avez une réalité qui vous comble et qui révélera un manque. Avec Jésus, vous avez, n'ayons pas peur des mots, une jouissance qui suscitera en vous un désir plus profond. C'est le contraire des réalités intramondaines. Dans les réalités intramondaines, il n'y a pas encore, et puis ça arrive. Par exemple, dans la réalité mondaine, vous avez le désir qui s'épuise dans sa jouissance. Vous avez le manque qui est satisfait par son comblement, je ne trouve pas de meilleur mot, c'est un mot français. Vous avez l'absence qui est annulée quelque part par la présence. Donc on peut dire que dans la réalité chrétienne et spirituelle, je reprends la perspective du « parce que déjà là, pas encore », est-ce que je me fais comprendre sur cette affaire-là? Si vous vivez de l'expérience de Jésus, vous en vivrez le manque. Si vous vivez de la joie de Jésus, vous en souffrirez la tristesse de ce monde, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Autrement dit, le déjà-là, quelque part, il nous ramène à un pas encore. Et ça, c'est lié à la condition chrétienne. Je précise que l'idée d'accomplissement, de venue du Christ, de présence, est une catégorie christologique et non pas chronologique. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant quand on étudie de près les textes, ce qu'on ne fait pas assez, ou ce qu'on ne fait jamais assez, les couches les plus récentes du Nouveau Testament ne sont pas moins eschatologiques que les couches les plus anciennes. Parce que vous savez, on disait, les premiers chrétiens, ils attendaient que ça arrive tout de suite, et puis ce n'est pas arrivé. Or, ce qui se passe, si on lit les livres les plus récents du Nouveau Testament, ont une teneur eschatologique pas moins profonde et quelquefois plus riche même que les premières couches. Autrement dit, le « Viens Seigneur Jésus », Jésus est là, c'est dans notre maintenant. Ceci a des conséquences décisives par rapport à notre sujet. Ce n'est pas la fin du monde qui fait venir le Seigneur, c'est la venue du Seigneur qui fait advenir la fin. C'est la venue du Seigneur qui fait advenir la fin. Autrement dit, la question n'est pas quand est-ce qu'arrive la fin du monde, pour que le Seigneur vienne. Le Seigneur vient, le Seigneur est là, donc nous sommes dans les derniers temps. Donc nous sommes dans les réalités ultimes. Et il ne sert de rien de se demander quand est-ce que ça va arriver. Un peu plus loin, je vous dirai d'ailleurs que c'est diabolique cette affaire. Il ne sert de rien de se demander quand est-ce que ça va arriver. C'est la notion donc, de parousie, ce qu'on appelle la parousie, pareimi, se rendre présent, que le Nouveau Testament utilise dans en fonction du contexte culturel de ce mot, comme venue victorieuse du Christ, effectivement, de manière définitive. Mais le Christ est venu. Et je vous signale alors quelque chose qu'en général, à quoi on ne fait pas attention, qu'on ne parle jamais de retour du Christ dans le Nouveau Testament. Jamais. Pourquoi on ne parle pas de retour du Christ ? Parce qu'il n'est pas parti. Et que même le fameux récit de l'Ascension, que vous connaissez bien, il dit « il s'en va », on ne dit pas « il reviendra », on dit « il viendra ». Il viendra. Il vient, il viendra. Il y a toujours du futur, mais ce n'est pas du retour. Il est présent et il vient. Et il faut tenir les deux. Parce que c'est cette façon de comprendre la réalité ultime dans la temporalité humaine. Alors, quand je parle de la parousie, donc ce n'est pas une éventuelle fin du monde qui précipite la parousie, c'est la parousie, au sens de présence et venue du Christ, qui finalise le monde. D'accord ? Donc nous sommes, oui, dans les derniers temps, que ça dure 50 ans ou 10 000 ans, ça n'a aucune importance. Je passe au deuxième point, figure temporelle de l'éternité en régime biblique et chrétien. Nous ne pouvons pas parler de l'éternité en elle-même. On ne sait pas ce que c'est. Nous sommes obligés de parler de figure, en fonction évidemment de notre rapport au temps. Alors vous avez plusieurs manières, suivant les cultures, de parler de l'éternité. Vous avez par exemple le thème hellénique de l'incorruptibilité. Vous avez le thème de l'instant qui probablement, du point de vue philosophique, se rapproche le plus de plus justement de ce que pourrait être l'éternité, qui est une sorte de tangente de l'éternité et du temps, l'instant. Vous avez l'idée de la durée interminable, à la Woody Allen. L'éternité, c'est long, surtout à la fin. C'est insupportable. Si c'est ça l'éternité, c'est insupportable. Qu'est-ce que c'est, dans la perspective biblique et chrétienne ? Quelle est l'analogie, ou la figure plutôt, de l'éternité ? C'est le commencement. L'éternité, c'est l'irruption de Dieu dans l'histoire des hommes. Enfin, l'éternité dans le temps. C'est le Dieu de l'alliance, ou des alliances. Le Dieu des alliances, qui commence quelque chose de neuf avec nous, parce que ça n'a pas très bien marché avant. Mais attention, on peut dire qu'il recommence, mais il recommence jamais pareil. Il ne recommence pas quelque chose à l'identique. Il n'essaie pas de refaire ce qui n'avait pas marché avant. Chaque fois qu'il recommence, il commence de manière inédite parce qu'il va faire du neuf. Et la meilleure figure temporelle de l'éternité, enfin c'est celle en tout cas que nous connaissons dans la perspective biblique, c'est celle du commencement. Et le commencement s'enracine en Dieu même. Au commencement était le Verbe. Quand on dit au commencement, on dit depuis toujours. Ce n'est pas simplement un commencement chronologique. Et d'ailleurs, alors tout dépend de ce qu'on met sous les mots, mais un commencement chronologique, c'est un début. D'accord ? La fin, c'est la fin chronologique. L'accomplissement, il n'est pas nécessairement à la fin chronologique. C'est ce que disait Jean-Marc Mongeta en passant. Vous pouvez avoir des accomplissements qui ne sont pas des fins. Passe ton bac d'abord. Quand on a le bac, ça y est, on a décroché la lune. C'est accompli, on a le sentiment d'un accomplissement. Et nous savons que ça n'est qu'un commencement. De même, le début, ce n'est pas le commencement au sens de l'origine. Hein ? Donc, origine ou commencement et accomplissement se conjoignent, ce qui n'est pas le cas du début et de la fin. C'est un peu théorique, je m'en excuse, mais il faut distinguer les choses. Donc, la catégorie du commencement dans le monde biblique et chrétien est la médiation temporelle de l'éternité. La seule qui puisse manifester la présence de l'éternité dans le déroulement de l'histoire. Et c'est pourquoi on insiste beaucoup sur les nouveaux commencements dans la Bible et dans l'Évangile. Ça commence par le commencement dans l'Évangile de Luc, qui a toute une théologie de l'histoire. Dieu, il doit toucher terre. Alors il arrive à Nazareth, dans un lieu sans grandeur, etc. Et pareil pour le temps, Dieu doit entrer dans l'histoire des hommes. et dans la temporalité humaine. Il doit en assumer la durée, le drame, l'angoisse et l'espérance. C'est donc le sens des Pâques que nous trouvons dans la Bible et de la Pâque que nous trouvons, bien sûr, de manière fondatrice dans le Nouveau Testament. Et c'est pourquoi on insiste beaucoup dans le Nouveau Testament sur le fait de regarder devant et pas derrière. Il faut pousser la charrue sans se retourner. Il faut laisser les morts enterrer les morts. Et c'est l'enfant qui nous est donné un exemple. Parce que chez l'enfant, vous avez une innocence native disposée à la nouveauté et à la transcendance. Ceci veut dire que il n'y a pas de capitalisation, en quelque sorte, pour vivre du Christ. Quand on vit dans le Christ, on est toujours invité à retourner à une origine qui est un accomplissement, qui est la présence de Jésus et qui est souverainement libre, même si elle peut s'inscrire dans notre mémoire profonde, elle fait chaque fois du neuf. Et que donc la foi chrétienne n'est pas le résultat d'une connaissance qu'on enseignerait par paliers successifs, elle est beaucoup plus d'ailleurs de l'ordre de la reconnaissance que de la connaissance. Et c'est ce que Saint Paul et les évangiles veulent nous dire quand ils parlent du « les temps sont accomplis du moment favorable ». On traduit ça quelquefois par « moment favorable », « kairos » dont je parlais au début. C'est l'événement qui change tout. Alors, nous pouvons tous trouver des petites analogies dans nos expériences. Vous avez tous vécu des moments d'intense présence, d'intense émotion, d'intense que sais-je, où l'on dit « autant suspend ton vol ». On a l'impression que l'éternité tout d'un coup nous a rejoints. On ne sait plus trop le temps que ça dure. Effectivement, il y a là une nouveauté. Mais la nouveauté absolue fait peur. Et c'est pourquoi dans les récits de la résurrection, qui sont les récits qui nous rapportent un événement d'une nouveauté absolue, devant la nouveauté absolue, on est dans la crainte. Pourquoi ? Parce que tous nos repères sont bouleversés. C'est l'initiative divine qui est en jeu. Et prenez le mot « initiative divine » au sens littéral. Commencez. L'initiative divine nous rejoint. Or, qu'est-ce que nous faisons habituellement devant cette nouveauté inédite et inépuisable ? Eh bien, nous conjurons la crainte du commencement nouveau par un recommencement. Par exemple, le printemps. Mais quand le printemps arrive, c'est du nouveau, mais ça ne nous fait pas trop peur parce qu'on sait ce que c'est. On sait où ça va. Donc nos commencements sont des recommencements. Nos naissances sont des renaissances. Mais dans la perspective chrétienne, avec la création nouvelle, le monde nouveau, l'inconcevable de la nouveauté appartient à sa définition même. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que ce que vous attendez n'arrivera pas. Ou que ce n'est pas ce que vous attendez qui arrivera. Arrêtons de projeter sur l'accomplissement nos fantasmes. Dieu répond sans correspondre à nos attentes. Et heureusement, car s'il répondait, ça serait fini de notre appel à l'éternité. Donc il faut déplacer nos attentes. Ce qui vient ne remplit pas l'espace prédéterminé d'une attente précise. C'est littéralement l'attente de l'inattendu, l'espoir de l'inespéré. Vous comprenez qu'il faut une disponibilité particulière pour entrer dans ce mystère. Et qu'est-ce qui fait la différence alors ? Quelle est l'attitude concrète pour répondre à la présence de Jésus ? Et c'est précisément ce que nous disait Marc 1,15, « Convertissez-vous ». C'est l'engagement personnel qui fait la différence. On demande à Jésus des signes, il n'est pas d'autre signe que le signe de Jonas. Il n'est pas d'autre signe que le signe de Jonas. 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre, dans le ventre du monstre. Or nous adorons nous ménager des sorties de notre histoire, des oracles, des conduites magiques, de la superstition, de la divination, ça va arriver, etc. Nous voulons dominer, maîtriser notre destin et donc en premier lieu l'espace et le temps. Nous voulons avoir des illuminations soudaines qui nous libéreraient des contraintes de l'espace et du temps. C'est le contraire du signe de Jonas. Il ne vous sera pas donné d'autre signe que le signe de Jonas qui renvoie à la mort et la résurrection du Christ, à l'épreuve terrestre et à la promesse de Dieu, qui comporte durée obscure, et c'est le temps de la maturation. C'est pourquoi la foi chrétienne, ce n'est pas le retard. Le temps que nous avons, ce n'est pas le retard de la parousie. C'est pas le retard, c'est le temps de la maturation. C'est pourquoi les paraboles du royaume sur la maturation sont très significatives pour que mûrisse la nouvelle naissance. Bien sûr, c'est le temps de l'enfantement. Il faut donc éviter de tomber dans le piège des discours religieux ou pseudo-religieux ou idéologiques ou même rationalistes. Il ne faut pas subvertir le sens messianique chrétien en y projetant les illusions entretenues par les attentes collectives ou nos préjugés personnels, nos rêveries de toute puissance, d'immortalité. L'immortalité, c'est un rêve infantile, qui est le rêve d'une éternité hors de l'engagement de notre humanité, de l'engagement résolu. J'en arrive au troisième point, la dimension eschatologique du monde et de l'homme. Si ce qui précède est vrai, l'homme et le cosmos sont des réalités en devenir, en procès, inachevées. Je me concentre sur l'homme. Il est perfectible par essence, avec lui le cosmos. Mais attention, il n'est pas perfectible de manière inéluctable, comme le mythe du progrès. Le devenir ne s'épuise pas dans ce qui serait planifiable prospectivement dès maintenant. L'évolution n'est pas quelque chose de programmé que nous aurions dans nos ordinateurs et nous ne ferions qu'advenir ce qui serait déjà potentiellement présent. Ceci n'est pas vrai pour la simple raison que le devenir de nos vies est affecté de manière centrale, c'est ce que j'ai indiqué précédemment, par la transcendance, autrement dit par l'inattendu absolu de Dieu. Il n'y a donc pas continuité linéaire entre la vie des hommes et le royaume de Dieu. Il n'y a pas davantage discontinuité absolue entre le royaume et l'histoire humaine. Alors, la discontinuité entre le royaume de Dieu et la vie des hommes, l'histoire des hommes, a abouti à une sécularisation toujours plus grande de l'histoire. C'est une tendance, donc vous avez le royaume de Dieu en Dieu, puis la vie des hommes, tendance dualiste, bien sûr, qui est à rejeter avec pas moins de vigueur que la tendance qu'on appelle moniste, qui est celle de l'optimisme évolutionniste, c'est-à-dire que finalement, le royaume de Dieu se déduit de ce qui est déjà présent, il n'a plus qu'à se dérouler en quelque sorte, un dévoilement de ce qui serait déjà en train de se faire. Donc, il faut maintenir une tension entre royaume de Dieu et histoire des hommes. Il y a à la fois continuité et rupture dans la perspective chrétienne. Il y a une transcendance qui est plus qu'une évolution. Il y a donc un hiatus, qui est le hiatus pascal, qui fait passer en Dieu toute la création et donc toute l'humanité, mais moyennant la Pâque par mort et résurrection. Alors, en revenant à ce que je disais sur la perspective biblique et chrétienne du temps, vous avez compris que l'Écriture rompt, et d'ailleurs ça c'est bien connu des historiens des religions, avec l'éternelle récurrence du même, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, le printemps. Et d'une certaine manière, dans cette perspective, il n'y a pas de fin parce qu'il n'y a pas de commencement. Le cercle. Il n'y a pas de commencement au cercle. Il n'y a pas de fin non plus. Mais ce n'est pas non plus, comme on l'a trop dit, si vous voulez, de manière un peu schématique, la perspective linéaire, la perspective biblique, qui serait le contraire de la perspective cyclique. C'est-à-dire une histoire qui avance, etc. Non. Il y a une histoire qui avance, mais elle est grevée d'entrée de jeu et de manière permanente par l'accomplissement. Donc elle est à la fois vers l'avant et vers en haut. Et je passe à mon quatrième point, qui est la réalité eschatologique de l'Église. Bon, je suis allé très vite sur la dimension eschatologique du monde. Ça a été développé en particulier à la deuxième conférence. Mais ce point-là nous intéresse peut-être davantage. Alors je voudrais, en m'appuyant sur Congar, relever un tournant historique qui s'est produit au XIIe siècle à propos de notre sujet. Grosso modo, jusqu'au XIIe siècle, et Yves Congar est très précis, jusqu'en 1160, on ne distingue pas une église de la terre et une église du ciel. Vous avez donc l'église qui est formée, pas formatée, mais qui est fondée dans l'eschatologie. L'église, c'est la Jérusalem d'en haut, sur la terre. Et le lieu premier de cela, c'est la célébration de la liturgie, de l'Eucharistie. Donc l'église terrestre est vue en continuité avec l'église d'en haut. Et le terme qu'on emploie, c'est l'église pérégrinante, une église en marche, ecclesia peregrinans. À partir du XIIe siècle, on va distinguer entre une église qu'on va appeler militante, ecclesia militans, et une église glorieuse qu'on va appeler triomphans, ecclesia triomphans. On va distinguer deux églises en quelque sorte, l'église du ciel et l'église de la terre. L'église militante, langage militaire, 1160, nous sommes au temps des croisades. Et donc, on va en quelque sorte, petit à petit, déconnecter l'église accomplie, qu'on appelle l'église du ciel, l'église dans son accomplissement, de l'église des hommes, de l'église terrestre. Et puis, on va s'intéresser finalement à l'église terrestre et on va voir l'église céleste comme la récompense des luttes et des efforts de l'église terrestre. Alors bien sûr, on dit que l'une est l'avenir de l'autre, mais on est dans une juxtaposition, on n'est pas dans une symbiose. Et à partir de ce moment-là, c'est très net du point de vue historique, les catégories auxquelles on va avoir recours pour parler de l'Église sont des catégories essentiellement juridiques. On va s'occuper de l'Église militante. Et d'une certaine manière, ce que l'Église est appelée à être n'influence plus ce qu'elle est. Or ça, c'est fondamental dans la perspective chrétienne. C'est ce que nous sommes appelés à être qui fonde et qui forme dès à présent ce que nous sommes. Alors dans l'ecclésiologie des pères, c'est évident, c'est toujours ça. Vous avez l'Église, avec le risque d'ailleurs qu'on a reproché à l'orthodoxie, qui n'a pas eu notre histoire, de se projeter un peu trop dans le ciel et d'en oublier les tâches terrestres. On peut dire d'ailleurs que cette division est presque la conséquence d'une trop grande réussite en Église occidentale. On a très bien réussi notre tâche sur la terre au premier millénaire, qu'une fois que c'est réussi, bien, on ne s'est plus occupé de l'Église dans son mystère. Or, il ne faut jamais séparer l'Église comme don de Dieu et l'Église comme tâche humaine. L'Église comme réalité qui prend sa source en Dieu, qui vit de Dieu, qui n'existe qu'en lui, et l'Église qui est l'affaire des hommes, et donc qui est pauvre et pécheresse, etc. Alors c'est très intéressant parce que Philippe Curbelier nous a demandé de photocopier ce passage qui est le chapitre 7 de Lumen Gentium. Et le titre dit ceci: le caractère eschatologique de l'Église en marche et son union avec l'Église du ciel. Figurez-vous que la première version de ce chapitre et de son titre, le titre c'était l'Église militante. Et c'est Congar, qui est un des principaux rédacteurs de Lumen Gentium, qui a fait changer ça et qui a changé le contenu, qui a parlé de l'Église en marche, l'original latin, c'est Ecclesia Peregrinans. Le caractère eschatologique de l'Église en marche et son union avec l'Église du ciel. Là, avec Vatican II, on renoue le contact avec l'ecclésiologie des pères. Ça n'est fini, si vous voulez, ça n'est fini dans le papier. On retrouve, si vous voulez, l'Église dans sa dimension mystérique. Et c'est pourquoi on va parler d'abord de l'Église comme d'un mystère. Cette affaire qui peut vous paraître un peu abstraite est fondamentale. Parce que si l'Église C'est pas simplement une affaire juridique ou la fameuse définition d'Église comme société parfaite, mais si elle est un mystère, elle n'est pas seulement fondée dans le Christ historique, donc sur l'incarnation, ce qu'on a profondément développé avec bonheur, mais de manière exclusive à partir du XIIIe siècle, et donc prolongement du Christ dans l'histoire des hommes, elle jaillit du ressuscité, elle jaillit de la Pâque, l'Église d'ailleurs, et donc elle jaillit du don de l'Esprit. Elle est en germe le monde nouveau. Et donc vous voyez les conséquences pneumatologiques du don de l'Esprit Saint, de resituer la résurrection du Christ au cœur de la foi chrétienne, etc. Et c'est pourquoi donc on va parler de l'Église d'abord comme d'un mystère avant de la situer dans sa hiérarchie des ministres ordonnés. Donc la dimension eschatologique de l'Église fait voler en éclats son approche juridique. L'Église est prémisse du royaume, elle est ordonnée à lui, elle n'a de sens que par rapport au royaume. L'Église est fondée sur son avenir, sur son devenir, dès à présent. Et son fondement, c'est le Christ ressuscité, pas simplement le fondateur, le fondement. Donc l'Église, c'est le peuple des derniers temps, suscité par l'Esprit, donné au dernier temps précisément. Elle est don avant d'être tâche, aventure à vivre, et dans les heures et malheurs de l'histoire des hommes. Donc l'Église est un peuple en marche. C'est pour ça que Vatican II va beaucoup parler du peuple de Dieu. Évidemment, c'est Congar qui est derrière. Peuple de Dieu en marche, Ecclesia Peregrinans. Il s'agira de travailler à la réalisation d'un monde conforme au projet de Dieu pour ce monde, mais avec la conscience d'une inadéquation permanente entre ce que sont les choses et ce qu'elles pourraient être. L'Église, mais pas plus que le monde, ne coïncide déjà avec ce que ce doit être, ce que cela doit être. Et donc, vous voyez, si nous trouvons quelque part l'équilibre qui est toujours instable entre annonce du royaume orienté vers sa source, qui est le royaume de Dieu, et tâche humaine, nous trouverons l'équilibre. Et suivant les périodes historiques, on a plus insisté sur la dimension de tâche terrestre et plus sur la dimension de don de Dieu. Pour schématiser à l'extrême, vous avez la tendance plutôt action catholique et la tendance plutôt renouveau. Les deux sont justes, mais sont fausses si elles sont excluantes l'une de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? L'Église, bien sûr, n'est pas une fin en soi. Le projet de Dieu ne s'épuise pas en elle. Elle est destinée, non pas à disparaître, mais à s'épanouir en royaume de Dieu. Je terminerai par là, cette division a eu des conséquences incalculables pour l'Occident. La division entre, finalement, l'accomplissement dans le ciel et la tâche terrestre des hommes qui lui étaient déconnectés. Vous allez avoir deux retours de bâton. Un premier retour de bâton au XVIe siècle, où, ne voyant plus trop où allait ce monde, qui de toute façon, c'est le nom de l'histoire, ne va que de catastrophe en catastrophe, on a l'émergence des projets utopistes, les grands utopistes du XVIe siècle. Le terme utopie est un terme qui a été créé par Thomas More, qui est un lieu imaginaire. Utopos, ça vient du grec, sans aucun lieu. On construit un imaginaire qui est déconnecté de nos réalités terrestres, qui a de profondes racines dans l'Antiquité, mais si vous voulez, c'est un monde, surtout dans la perspective politique, qui est un monde parfait, qu'on invente, mais qui est tout sauf réel. Premier retour de bâton. Deuxième retour de bâton, réaction au projet utopiste. Vous allez avoir les grandes idéologies qui vont se développer au XIXe siècle, qui vont récupérer la perspective messianique sécularisée dans le ciel, un ciel sécularisé avec les utopies, qui vont les récupérer à l'horizon de l'histoire. Mais alors pour le coup, ce qui avait été séparé avec les utopistes, cette fois n'est même plus distingué, et on va projeter l'accomplissement de l'histoire au sein même de l'histoire, dans les grandes idéologies que sont les idéologies marxistes ou les idéologies racistes, si vous voulez. Il ne faut pas oublier que les idéologies racistes, donc, dont le nazisme est un des plus effrayants exemples, sont les excroissances aussi de conceptions mécaniques et inéluctables de l'évolution. C'est inscrit dans la réalité même de l'histoire, ça va vers ça. Et donc on va vers les c'est un millénarisme, hein, comme le communisme et le nazisme sont des millénarismes, c'est-à-dire l'avènement du paradis sur terre, pour dire les choses très rapidement, que ce soit sous la forme d'une société sans classe, ou que ce soit la domination définitive de la race qui doit vivre. Donc vous voyez que ce qui se passe au XIIe siècle a des prolongements en Occident qui sont décisifs. Il faut rappeler, et je termine par là, qu'il faut bien distinguer sans séparer l'Église du ciel et l'Église de la terre, autrement dit le royaume de Dieu accompli et la pérégrination des hommes. Il faut bien distinguer, mais il ne faut surtout pas séparer, puisqu'en effet, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Amen.